Alors, la semaine, pas samedi hier, parce qu'hier c'était ici, on a fait une journée d'enseignement qui était très riche, vraiment. C'était dense, c'était du lourd, si je puis dire, de la bonne nourriture. Mais la semaine d'avant, je suis allé à l'église de Roubaix où Martin est pasteur. Et à un moment, d'ailleurs, il a repris ce passage-là hier, il a repris ce thème-là hier lors de son introduction à la journée d'enseignement. Et lorsque j'étais là-bas, il a parlé d'un environnement sécurisé. Et j'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur, parce que moi, ce que je veux, en fait, quand j'ai acheté ma maison, qu'on l'a fait bâtir, et qu'on y a mis des meubles, j'ai mis ce que j'avais de plus cher dans cette maison, j'ai surtout pas envie qu'on vienne me voler. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu l'expérience du vol, enfin du cambriolage chez soi, mais il paraît, enfin moi j'ai jamais vécu, merci Seigneur, mais il paraît qu'on vit ça comme un viol en fait. C'est comme si on venait dans votre intimité puis qu'on venait prendre ce qui vous est le plus cher. En tout cas moi, quand je mets quelque chose en place dans ma vie personnelle, j'ai surtout pas envie qu'on vienne voler ce qu'il y a dans ma maison. Même, on a eu l'expérience une fois de... Ce serait à raconter une fois, mais d'un vol à carte bleue. Vous voyez, on avait volé notre carte. Enfin, pas notre carte, le numéro. Puis il y a des gens qui avaient jeté des choses en Angleterre avec ça. Mais je vous assure, ça fait drôle. Enfin, pour ceux qui l'ont vécu, ça fait drôle, quoi. Et c'est pareil. Enfin, moi, comme ça, je vois les choses. Quand je mets quelque chose en place dans l'Église, lorsque je vis l'Église... Lorsque je vis des relations avec les gens, j'ai pas envie que quelqu'un vienne voler ces personnes, ou vienne voler leur paix, ou vienne voler leur bien-être. J'ai pas envie de voir quelqu'un dans cette église être sorti. Pour les gens qui, les parents qui ont des enfants et qui ont des enfants qui ne veulent pas suivre le Seigneur, on a l'impression parfois de nous avoir volé notre enfant. Et moi, j'ai pas envie de ça. Dans ce que je fais ici, et ce que je fais avec vous, forcément, parce qu'on ne peut pas faire les choses seul, clairement, je n'ai pas envie de bâtir, et puis qu'un beau jour, quelqu'un entre dans cette pièce et vienne prendre une, deux, trois, quatre, cinq personnes, vienne enlever des situations, vienne voler la paix dans la vie des gens. Et quand, à un moment donné, Martin, il a dit d'une manière claire, ce samedi-là, aujourd'hui, les églises doivent bâtir un environnement sécurisé, ça a percuté mon cœur. Je peux vous le dire. Il l'a redit hier, ça a eu le même écho dans mon cœur. Ça a bouleversé vraiment mon être intérieur. À tel point que j'en ai été réveillé cette nuit. Et le Seigneur m'a encore parlé. Donc, tout ce que je vais vous confier, je vais vous confier ce que j'étais tiré dans le passage que Martin a donné hier et le samedi d'avant. J'étais puisé là-dedans et j'y ai trouvé des richesses pour que nous puissions nous bâtir nos vies d'une manière solide. C'est important. Vous savez que Jésus a dit que le voleur vient pour égorger, détruire, voler. Il vient pour... C'est comme s'il pouvait rentrer dans la maison des gens et faire ce qu'il avait envie. Et moi, j'ai pas envie de ça. Dans ma vie personnelle, dans ma vie d'amitié avec mes frères et mes sœurs, mes amis, mais aussi dans cette église, j'ai surtout pas envie que quelqu'un vienne voler quoi que ce soit ici. Et en toute conscience, honnête, si on est honnête avec nous-mêmes, hein, parce que des fois on ne l'est pas, on peut être un peu hypocrite avec nous-mêmes, ça va faire 10 ans cette année que nous sommes arrivés à Marc-en-Barœul. Je le dis à Jacqueline lorsque je suis allé la voir, la visiter à la clinique. Je dis, ça va faire 10 ans déjà que nous sommes là. Waouh, comme le temps a passé. Mais malgré tout, dans ces 10 années, moi j'ai vécu des moments extraordinaires. On s'est remémoré des moments où mon fils qui avait 16 ans jouait de la guitare et on sentait dans le temps de louange la présence de Dieu. Il savait à peine jouer et la présence de Dieu venait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mesdames, pour ceux qui étaient là. Hein, Julien, tu t'en souviens, il y avait un temps là, comme on se demande, il n'y avait pas de technique, mais la présence de Dieu était là. Et vous allez voir que c'est vraiment important, ça. Mais j'ai vécu vraiment des temps merveilleux, je peux vous dire. Et je retiens toujours les bonnes choses, moi. Mais néanmoins, quand je vois ce qui s'est passé depuis 10 ans, j'ai vu des moments où on a mis des choses en place et puis Satan est venu voler. Des choses nous ont été retirées. Des gens sont partis, mais aussi il y a des personnes qui étaient rentrées dans le service pour le Seigneur et puis qui ont abandonné. On va en parler. Ça résonne un peu là, si on peut faire quelque chose. En attendant, les gens qui me... Ils auront bien le temps de m'admirer, n'est-ce pas, Maxime? Ah, ça, c'est l'orgueil. Voilà, c'est mieux? Un peu moins fort? Vous m'entendez? Voilà. Et donc, j'en revenais au fait que, donc, moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est de bâtir quelque chose de solide. Et j'ai vu des gens arrêter, j'ai vu des personnes nous quitter, j'ai vu des personnes vraiment être détruites dans leur vie. Et parfois, détruites définitivement, au point d'abandonner le Seigneur. Et parfois, j'ai vu des personnes se relever. Ah, merci Seigneur, parce qu'il y a quand même des sujets de se réjouir. Et lorsque vraiment ce mot a été dit, cette phrase a été dite, bâtir un environnement sécurisé, waouh, ça a percuté mon cœur. Parce que je peux vous dire, toutes les églises, et je pèse mes mots quand je dis ça, tant pis, je vais me faire des pasteurs ennemis, toutes les églises ne bâtissent pas un environnement sécurisé. J'ai été mis au courant d'une situation hier dans une église proche d'ici, hier, où j'étais triste dans mon cœur. Parce que il y a des pasteurs qui vivent des situations parfois terribles, au point qu'ils sont prêts d'abandonner les choses. Et ça, je trouve ça terrible, terrible. Moi-même, j'étais prêt, dans certaines situations, de lâcher prise, de dire, allez, j'arrête, j'irai dans une église, je serai remplisseur de banc, comme on dit. Je le dis souvent, je dis souvent l'expression avec mon épouse, et puis j'arrêterai là. Voilà. Donc maintenant, on va voir un peu comment bâtir notre vie et l'Église d'une manière sécurisée. D'accord ? On va prendre un texte dans 1 Samuel chapitre 19, versets 18 à 24. « C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. » David, c'était celui qui était roi, pour ceux qui ne le savent pas, mais il n'était pas encore roi. On peut dire qu'il avait été élu, mais il n'était pas encore en place. Vous voyez ? Il était en phase transitoire. Si je puis dire. Et puis il va voir Samuel, qui est un prophète, le prophète en Israël à l'époque. C'était the prophète, vous voyez, le gars qui avait une certaine stature. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Nayoth. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Nayoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Bon, tant qu'à faire, un prophète, ça prophétise. Un enseignant, ça enseigne. Là, c'est bon signe déjà. Les prophètes prophétisent. Et ils ont Samuel à leur tête. Entendez bien ceci. Et l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Ils se mirent eux aussi à prophétiser. On fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens. Donc une première vague de personnes, d'hommes de guerre. Ils arrivent devant les prophètes. Paf, ils se mettent à prophétiser. On va le dire à Saül. Saül lui dit, deuxième vague. Pareil, il prophétise. Il envoyait encore pour la troisième fois. Et il prophétisait également. À chaque fois que ces gens arrivent à Nayoth, à chaque fois, il prophétise. Et il en envoyait encore pour la troisième fois. Alors Saül alla lui-même à Rama. Il dit, bon, c'est des bandes de bons à rien ou mauvais à tout, comme on dit. Il dit, moi, je vais y aller moi-même. Et voici ce qui se passe. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» Et on lui répondit « Ils sont à Nayoth, près de Rama. » Il se dirigea vers Nayoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Trois vagues. Et trois vagues, ça ne marche pas. Et Saül arrive lui-même, lui le roi. Le roi, encore pour quelque temps. Mais il arrive et il se met à prophétiser. Et il ôta ses vêtements. Alors j'imagine la situation plutôt cocasse d'un roi qui se met à nu en prophétisant. et devant Samuel, il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Il est ridiculisé, en fait. Un truc. Et c'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Il est intéressant quand même ce passage. Vraiment très intéressant, je peux vous le dire. Pourquoi ? Parce que ici, le contexte de David, il est vraiment important. Il est le contexte dans lequel nous vivons, nous, et vous et moi, souvent un contexte comme celui-là. C'est un gars qui a été élu par Dieu, qui a été choisi par Dieu. Pourtant, il ne faisait pas partie des fils d'Isaïe au moment où Samuel va oindre le roi. Et même Samuel dit, mais n'y a-t-il là, est-ce qu'il y a là tous tes fils ? Il dit, non, j'en ai un qui est en train de paître les brebis là-bas, va le chercher. Et là, l'Éternel lui dit, c'est ce jeune homme-là. David, il n'avait pas beaucoup de capacité, il était tout jeune, mais Dieu choisit cet homme tout petit. Certes, il était beau, semble-t-il, de figure, mais tout petit, il n'a pas beaucoup de force. Il est comme toi et moi. C'est comme ça souvent qu'on se regarde, hein, on n'est pas très grand. Enfin, sauf ici, il y en a des très grands, hein, je ne cite personne. Mais on est tout petit aux yeux de l'Éternel. Tout petit. Et Dieu va choisir cet homme. Et David, pendant pas mal de temps, il va subir l'agression de Saül. Il y a une jalousie parce que Saül sait que David a été oint et que lui, il a été rejeté par l'Éternel à cause de sa désobéissance. Et David va se mettre sans cesse à essayer. Il va essayer de cohabiter avec Saül dans des moments. Et juste avant cet épisode, Saül se lève animé par un mauvais esprit, on peut le dire. Et là, il a sa lance, il va la planter à côté de David. David a tout juste le temps d'esquiver. Et c'est là où il dit que David prend la fuite et qu'il s'échappe. Ah, David, il est roi, mais il est courageux, mais il a des limites à son courage. Et là, que va-t-il faire ? Il fait quelque chose d'important. Il ne fuit pas. Et ça, j'aimerais que ceux qui entendent ça, et que vous l'entendez bien, il ne fuit pas seul se cacher dans un coin. David ne se planque pas dans un coin, il ne se terre pas comme le fait à un moment donné Gédéon dans le pressoir. Vous voyez, il retourne vers celui qui correspond à, et qui représente l'autorité spirituelle. Il va vers Samuel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, lorsque nous sommes agressés, spirituellement, enfin vous savez ce qui peut... Lorsque nous vivons des épreuves, la première chose que nous faisons, que faisons-nous ? Nous nous isolons. Or, Dieu n'est pas un Dieu de l'individualisme, de l'isolement, mais Dieu est le Dieu de la relation, de l'Église. Et c'est si tu veux trouver un environnement sécurisé, c'est dans l'Église, en tout cas dans le rassemblement de croyants que tu le trouves. Pas tout seul. Entendez bien ceci, pas tout seul. C'est ensemble qu'on trouve la sécurité. Et puis, ça, donc, c'est le contexte dans lequel se trouve David. Et puis, il s'en va donc à Rama. Ah, c'est intéressant, parce que Rama, ça veut dire colline, en fait. C'est un lieu élevé. C'est un lieu, d'ailleurs, où apparemment, il y a pas mal de prophètes qui se baladent et qui prophétisent. C'est un lieu où il y a l'action du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un lieu où Dieu amène des prophètes, où la présence de Dieu est manifeste. Et c'est un lieu même où, quand les prophètes rencontrent quelqu'un, les gens se mettent à prophétiser. C'est-à-dire qu'ils deviennent comme eux. Waouh ! C'est très fort ce qu'il y a en train de se passer là. C'est un environnement puissant, Rama. Mais c'est marrant parce que Samuel lui dit, on ne va pas rester ici. Parce que Rama, ça représente l'Église qui vit les dons spirituels. Vous voyez ? On vit les dons, on vit la parole prophétique, on vit les dons de chacun. Mais c'est marrant parce que Samuel l'amène plus loin, dans un autre endroit. Il l'amène à Naïot. Et Naïot, ça veut dire, hier, ça nous a été dit que ça veut dire belle communauté, mais le mot étymologiquement, c'est difficile de retrouver la traduction. Ça peut être traduit par maison construite. Et c'est vrai que si tu veux trouver sécurité, et tu as besoin, quand tu as une maison et que tu rentres dans la maison, si ta maison est construite, si elle a un toit, si elle a un mur, si elle a des portes fermées à clé, moi ce matin je suis parti d'ici et j'ai mis l'alarme. La personne qui veut rentrer, il faudra d'abord qu'elle détourne mon alarme et qu'elle passe sur mon chien. Parce que pour ceux qui viennent à la maison, vous le savez, quand quelqu'un arrive à la maison chez nous, le quartier le sait. Et donc, vous voyez, ma maison est sécurisée. Bah, ça vaut ce que ça vaut, je vous l'accorde. Mais il y a un verrou, vous comprenez ce que je veux dire. En fait, Samuel est en train de dire, et c'est important de le saisir, Samuel est en train de dire, ce dont tu as besoin, David, mais ce dont tu as besoin, Bruno, ce dont vous avez besoin, vous et moi, ce n'est pas simplement de vivre l'Église à travers les dons, mais de bâtir des choses de manière à ce que vous soyez réellement en sécurité, afin que la parole de Jésus qui dit « l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire », l'ennemi pourra venir, mais il restera à la porte. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que dans ta vie, tu dois créer un environnement et créer et faire des choses pour créer cet environnement pour que l'ennemi, certes, il peut venir, mais il n'entrera pas. C'est ce qui se passe avec Jésus à un moment donné. Quand Pierre lui dit « à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, tu n'iras pas jusque la croix ». Et que répond Jésus ? « Passe ton chemin, Satan. Tu n'entreras pas ». Et à un autre moment, il dit « voici le prince de ce monde, vient ». Et Jésus ajoute « et il n'a rien en moi ». Ça veut dire qu'il ne peut pas entrer dans mon cœur. Il ne peut pas rentrer dans mes pensées. Il ne peut pas rentrer dans ma maison parce que j'ai fait quelque chose qui empêche Satan d'entrer dans ma vie. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont ce problème-là. Ils vivent les dons spirituels, et je fais partie de ces gens-là. Ils vivent les dons spirituels. Ils vivent leur ministère, leur service dans l'Église, ils ont reçu des belles choses du Seigneur, et à un moment donné, Satan a une porte qui lui est ouverte et il rentre. Et quand je dis Satan, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens, et même dans les Églises, sont en train de dire que Satan, c'est juste un système de pensée, etc. Hein. Satan, c'est vraiment quelqu'un. D'accord ? Soyez que les choses soient claires. Donc, ce que Dieu veut que nous construisions, c'est un environnement sécurisé dans nos familles, dans l'Église. Et on va voir ensemble que représente le chemin vers Naïot. Alors la première des choses, c'est que j'ai essayé de regarder cette semaine, en méditant ce passage, de voir, mais que faisaient les prophètes à l'époque ? Certes, ils prophétisaient, d'accord, ça c'est marqué. Mais à votre avis, et vous allez travailler un petit peu, que faisaient les prophètes à l'époque ? Oh, j'aime bien, c'est 20 sur 20 pour ma belle-mère, pour mamie Margotte. Ils priaient, ils prenaient du temps ensemble dans la prière. Entendez bien ceci, pourquoi Satan n'a pas pu entrer en Jésus ? Regardez la vie de prière de Jésus. La vie de prière de Jésus est une vie de prière construite. Ils priaient, ils passaient la nuit à prier, nous est-il dit, à plusieurs reprises. Et quand il est dans le jardin de Gethsémané, il prie. Et d'ailleurs, il dit à ses disciples, « Priez avec moi. » Et que font-ils ? Ils s'endorment. La première chose que tu dois faire pour bâtir une vie sécurisée, c'est de prier. Et là, j'en appelle vraiment à votre intelligence et à votre volonté. Combien de temps tu mets à sécuriser ta maison ? Est-ce que tu pars de chez toi avec la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, sans mettre ton alarme et en permettant à ton chien qui protège ta maison d'aller faire son tour et d'aller voir les jeunes filles du coin ? Est-ce que tu fais ça ou est-ce que vraiment tu sécurises ta maison ? C'est la question que je te pose, parce que beaucoup de gens, et moi j'ai réalisé ça il y a quelques années, j'ai prié des années pour mes enfants. Et je me suis dit, aujourd'hui je porte les fruits de mes prières. Parce que j'ai prié pendant des années pour mes enfants. J'ai prié avant même qu'ils connaissent une fille, je priais déjà pour ma belle-fille. Mes belles-filles, parce que j'ai trois garçons. Déjà, à l'avant, je priais, parce que je sécurisais ma maison. Et la question que je te pose, vraiment que le Seigneur nous pose, si tu veux bâtir un environnement sécurisé, prie d'abord. Passe de temps dans la prière. Et la deuxième des choses, c'est qu'il cherchait le Seigneur à travers les Écritures. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous savez, le cœur du prophète, c'était de chercher les Écritures, Dieu à travers les Écritures, à travers la Bible. Mais c'était de mettre en pratique dans leur vie ce qu'ils avaient entendu de la part de Dieu. La deuxième question que je te pose, combien de temps tu mets par jour, par semaine, à sécuriser ta maison en devenant quelqu'un dont l'écriture change ta vie? Une question que je te pose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous parler de... Le Seigneur m'a parlé cette nuit, clairement. Alors, vous allez dire, c'était pas un cauchemar, c'était un rêve. Quels sont ceux qui ont vu... je sais, c'est pas des films à regarder. C'est Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits. Vous les avez vus? Bon. Moi, je suis pas trop pour ce genre de film. Bref. Mais une fois, j'ai vu une scène. Alors, je sais pas où... Les spécialistes peut-être me diront, mais j'ai vu la scène cette nuit, dans un demi-sommeil, où j'ai vu, vous savez, à un moment donné, il y a un dragon qui vole sur une ville qui est un peu sur l'eau, je crois. Ça doit être les Hobbits. Et puis, à un moment, le dragon veut détruire la ville. Puis, un des héros du film, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe, il prend son arc et il tire sur le dragon. Et toutes les flèches qui arrivent sur le dragon, il a une peau, parce que j'ai pensé à ça hier, parce que Martin en avait parlé. Il a dit que les gens manquaient d'épaisseur dans leur foi et du coup leur cuirasse était faible et n'importe qui pouvait pénétrer. Si vous prenez une cuirasse en un acier fragile et qu'elle n'est pas très épaisse, vous lancez la flèche va passer à travers, vous êtes d'accord avec ça? Et cette nuit, comme ça, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a montré ça, et je vois le gars encore lancer ses flèches et rebondir sur le dragon. Aucune flèche ne pénètre. Et vous savez ce que fait, à un moment donné, le héros? Il sait qu'il y a quelques années, je crois que c'est lui qui avait envoyé la flèche, il y a un endroit où la flèche était rentrée et où ça avait été, où la carapace avait été, n'avait pas été refermée. Et que fait-il? Il prend la flèche, il lance et ça atteint l'endroit où la carapace avait été enlevée. Et là, je me suis dit, cette nuit, entendez bien ceci, c'est vraiment, c'est souvent comme ça que Satan fait. Parce que nous ne réglons pas les blessures du passé en recouvrant par la parole de Dieu ce qui nous est arrivé. Je prends un exemple tout simple. Imaginez un instant que vous ayez été rejeté pendant toute votre vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont rejetés. Hein ? On a tous vécu plus ou moins le rejet, mais d'une manière plus ou moins forte. Imaginez un instant que vous avez donc vous venez au Seigneur, puis avec ce rejet-là. Forcément, le Seigneur guérit votre cœur au niveau du rejet. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la plaie qui est ouverte, il enlève la flèche, vous, par le pardon, par tout ce qui peut se passer, et puis à un moment donné, votre plaie est guérie. Mais que fait la parole de Dieu ? Normalement, vous devriez recouvrir par la parole de Dieu, en proclamant des versets de la parole de Dieu sur vos vies, pour que cette plaie soit couverte et que Satan n'y entre plus. Le problème, c'est que souvent nous avons des plaies, nous avons notre carapace qui est ouverte. Nous disons « Merci Seigneur, tu nous as guéris ». Et vous savez ce que fait Satan ? Il fait comme ce héros dans le film. Il retrouve l'endroit où il va viser et il va vous atteindre en plein nez. Je crois vraiment que c'est de Dieu que j'ai reçu ça. Et je pense que le Seigneur veut parler à des personnes ce matin par rapport à ça. Et à un moment donné, il faut savoir être capable de refermer les choses. Fermer la porte à l'ennemi. Reconstruire. Je ne suis pas médecin, mais il paraît que quand un os est reconsolidé, il paraît qu'il est plus solide qu'avant. Il paraît que même, vous savez, j'ai un peu de spécialisation dans la soudure, parce que je fais réparer des chaudières. Les gars, quand ils vont souder, vous savez, quand on a une fuite, on ouvre une fenêtre comme ça dans le tube de la chaudière, et puis on ressoude. Il paraît que la soudure est plus résistante à l'érosion, à l'usure, que le métal lui-même. Et ce que Dieu veut faire, c'est reconstruire des carapaces pour empêcher l'ennemi d'y entrer. Combien de fois j'ai vu des personnes où je pense avoir eu des paroles de guérison pour elles, dans des entretiens pastoraux, je disais « Mais Dieu veut te guérir, et Dieu te guérit, etc. » Et à chaque fois, les personnes se relevaient, elles rentraient dans le service. Mais un beau jour, la même situation, comme par hasard, c'est toujours la même situation qui nous renvoie dans le sujet. Avez-vous remarqué ça? Que vous vivez souvent les mêmes situations, non? Et qui vous blessent toujours au même endroit? Avez-vous remarqué ça? Et puis, à un moment donné, il arrive, il a juste à viser juste, et croyez-moi, il s'est tiré, puisque ça fait des millénaires qu'il fait. Il tire, il touche le cœur de la personne, et la personne, que fait-elle? Elle est de nouveau blessée, elle s'assied, et quand ça arrive plusieurs fois, vous savez, il y a même des gens qui disent « C'est fini, je ne me relève plus, je ne veux plus être blessé. » Ces prophètes, ils avaient une capacité à prier, à chercher le Seigneur et à laisser la parole de Dieu les changer, les transformer. C'est pourquoi nous ne voulons pas bâtir ici une église de personnes faibles. C'est pourquoi vous avez des week-ends, on va faire des week-ends d'enseignement. C'est pas pour dire on fait des week-ends d'enseignement. Parce que le but, c'est de construire, de bâtir dans la vie des gens. Alors, peu importe l'enseignement, peu importe qui enseigne, l'important, c'est de retenir ce qui est bon pour chacun d'entre nous et de ce qui doit réparer nos vies et nous fortifier. Le chemin vers Naïote peut représenter un lieu impénétrable par l'ennemi. Avant, je reviens peut-être. Vous savez, souvent, on dit, une personne est venue chez moi, on a une blessure, et une personne est venue chez moi, elle m'a fortifié. Vous avez déjà retenu, dit ça peut-être. Ah, moi, j'ai parlé avec telle personne, je me suis senti fortifié. Et malheureusement, on a mis peut-être des mots sur le mot fortifié ou une définition du mot fortifié qui n'est pas juste. Fortifié, ce n'est pas aller dans le sens du poil. Fortifié, ce n'est pas dire « Oui, mon frère, ma sœur, tu es blessé, je veux te guérir. » Ça, c'est guérir. Ça, c'est avoir une parole de guérison. Fortifié, vous savez ce que c'est ? C'est de dire à la personne, j'ai trouvé qu'il y avait toujours la même situation chez toi, tu as toujours les mêmes choses qui reviennent, tu es toujours blessé dans les mêmes situations, et fortifier, c'est te dire, maintenant, mon frère, ma sœur, ce que tu dois faire, c'est bâtir quelque chose pour empêcher l'ennemi d'y rentrer. Ça, c'est fortifier. Alors forcément, parce que quand on dit ça à quelqu'un qui souffre, alors il faut trouver le bon moment, l'amour pour le dire. Hein, on est d'accord. Mais quand on dit ça, souvent les gens n'acceptent pas. Vous savez pourquoi ? Parce que la blessure n'est pas refermée. Mais il faut refermer la plaie dans un premier temps, mais après, être conscient que quelque chose doit être refermé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et le but, quand on veut fortifier ici, ce n'est pas passer forcément la caresse dans le sens du poil, comme on dit, mais c'est de dire là il y a un problème et ce problème doit être changé maintenant. Et la manière dont tu veux, dont tu vas faire les choses, ça va déterminer ta manière d'être plus fort dans l'avenir. Alors, le chemin vers Nahajot peut représenter aussi un chemin vers un lieu impénétrable par l'ennemi. Et là où le démon de Saül est entré à Nob. Alors, parce que du coup, j'ai lu les chapitres après. Et c'est vraiment intéressant. Dans le chapitre 22, 23, 24 qui suivent, vous allez voir que Saül va quitter cet endroit. Il va aller dans une ville qui s'appelle Nob. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va rentrer dans cette ville et que va-t-il faire? Il va tuer les sacrificateurs. Et je me dis, tiens, il y a une différence entre Nob et Nayot. Pourquoi peut-il entrer librement dans Nob, dans cette ville où il y a des sacrificateurs et les tuer et ne pas être capable de toucher un cheveu de David? Je me dis, il y a une différence telle. Vous savez pourquoi? Parce que Nob représente le religieux. Nob représente, je viens à l'église, je vais louer le Seigneur le dimanche matin, je viens, j'ai ma petite vie tranquille, vous savez, j'écoute le message, je prie un petit peu, j'ouvre ma Bible de temps en temps le soir avant de m'endormir, des fois même je m'endors sur ma Bible, je sais pas si vous vivez le truc, mais moi ça m'arrive. Les gens y rentrent, ils y servent et ils meurent à Nob. L'église religieuse, elle est pénétrable par le démon de Saül. Merci de m'aider. L'église de Nayot, elle n'est pas pénétrable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me suis dit, ben, est-ce qu'on fait les choses ou est-ce que je fais les choses d'une manière religieuse? Est-ce que je fais ici, je viens... bien sûr, on veut emmener les gens vers... on trouve qu'on peut vraiment trouver notre identité à travers ce qu'on fait. Mais quand on vous met et quand on vous invite à entrer dans une activité d'église, dans quelque chose dans l'église, il ne faut pas oublier le fait, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose dans l'église que ça va régler votre problème de pénétrabilité ou pas. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Ce n'est pas à travers ce que tu fais que tu es protégé. C'est à travers ce que tu deviens, ce que tu es devant Dieu qui te protège. Et ça, c'est vraiment important de le saisir. Quel temps je prends pour bâtir ma propre vie avant même de bâtir mon service dans l'église? Et c'est beaucoup, ce qui ne veut pas dire que vous devez tous démissionner de votre charge. Hein. On a besoin de monde. Mais est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Nob a été pénétré par le démon de Saül et les hommes y sont morts. Et Nayot est resté impénétrable. Les gens, ils rentrent, ils servent et ils vivent. Alors comment bâtir une église où tous seront en sécurité? En développant une vie de prière dans la vie de chaque croyant. Prenez le temps de prier. Priez dans vos voitures, priez, priez, priez. L'apôtre Paul dit « Priez sans cesse, c'est votre vie de prière ». Avec Jean-Luc, une fois par semaine, on se réunit, on se voit une heure et on prie et on demande la protection sur l'Église. On le fait parce qu'on a compris que la prière, c'était ce qui allait protéger l'Église. Et le problème, c'est que souvent, on nous appelle, nous les responsables, parce que ça n'a pas été fait dans la vie des gens. Les gens n'ont pas prié. Souvent, on nous demande des conseils. On dit, est-ce que tu crois que tu as fait ça ou ça? Je dois faire ça ou ça? Je dis, mais est-ce que tu as prié? Souvent, on me répond non, pas encore. Mais commence par prier. C'est la prière. Alors, fais pas des grandes prières. Demande au Seigneur. Demande-lui, tu vois, Seigneur, j'ai telle situation. Montre-moi. Aide-moi, Seigneur. Présente ces choses. Et vous allez voir, de plus en plus, Dieu vous parlera. Est-ce que tu crois que ta fille, Nathalie, comprenait tout lorsqu'elle était bébé? Elle ne comprenait pas tout. Elle sentait ton amour, elle sentait ta protection, elle ne comprenait pas toutes tes paroles. Et un petit peu à la fois, elle est en train de découvrir les paroles de sa maman. Mais la prière, c'est ça. C'est plus tu grandis dans la relation, plus tu vas comprendre ce que Dieu veut te dire. Mais ne dissocie pas la vie de prière de la méditation de la parole de Dieu. Et quand tu vois qu'à chaque fois... dans les mêmes situations, je peux vous le dire, dans les mêmes situations. C'est toujours la même chose qui revient parce que tu es toujours blessé ou meurtri ou découragé par la même situation. Si tu vois que ça se passe toujours comme ça, il y a matière vraiment à aller déclarer sur ta vie la parole de Dieu. Exemple, parole de rejet. Toute ta vie, tu as reçu des paroles de rejet. Moi, bienvenue au club, hein, parce que moi, j'en ai reçu des paroles de rejet, je peux vous le dire. Et à un moment donné, il faut prendre la parole de Dieu. Il y a ce que tu entends des gens. Il y a ce que tu entends de ton propre cœur. Il y a ce que Dieu dit sur ta vie. D'accord ? Un exemple concret de ce que vous pouvez faire. Vous allez dans la parole de Dieu, dans les psaumes. Et par exemple, David dit, tu as été un homme rejeté, David, hein, parce que il faut se poser la question de savoir pourquoi les fils d'Isaïe ils étaient là quand Samuel est arrivé et que lui, il était en train de bosser. Hein. Il faut peut-être comprendre pourquoi il s'est passé ça à un moment donné dans sa vie. David est peut-être beau, mais c'était peut-être un enfant rejeté. Hein. Sans doute. Hein. Et regardez, dans la vie de David, à un moment, il dit « Je te loue, ô Dieu, parce que je suis une créature merveilleuse à tes yeux. » C'est-à-dire que tant que tu écouteras les paroles de l'ennemi, tant que tu en recevras des flèches, continue à recevoir des flèches, mais tu ne pourras pas guérir si tu ne brandis pas la parole de Dieu, si tu ne prends pas le bouclier le temps que ça guérisse. Et tu dois brandir à un moment donné, je te loue, ô Dieu, car tu es car je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Mais ça, ce n'est pas le rôle des pasteurs. Ça, c'est pas le rôle des anciens. C'est même pas le rôle des responsables des groupes de maison. C'est le rôle de chacun. Vous êtes sacrificateurs et vous avez accès, comme David, jusqu'à Nayoth. Et là, de pouvoir vivre vraiment la construction de la parole de Dieu dans votre vie. Donc, en développant une vie de prière, en développant l'enseignement solide de la parole de Dieu. Quand on fait des enseignements ici, c'est pour que les gens reçoivent un enseignement solide. On ne vous dit pas de tout recevoir ce qui est dit, mais il y a des choses comme ça. Moi, hier, il y a des choses que j'ai notées qui m'ont interpellé. Et j'ai pris pour moi, et je vais travailler cette semaine. Je vais dire, Seigneur, ça m'a parlé. Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? En obéissant à toute parole venant de Dieu. Ce n'est pas simplement de dire, je reprends toujours le rejet. Les gens qui ont un problème avec le rejet vont se dire, ils me visent. Mais non, je ne vise personne. Je me vise moi le premier, hein. Mais quand on a le rejet qui est en nous comme ça, vous avez deux solutions. Soit de brandir, et puis de lâcher prise, ou d'être ferme. Pourquoi il nous est écrit dans la parole de Dieu, résistez au diable. Résistez-lui et il... Voilà, quelqu'un d'érudit. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Mais c'est exactement ça, en obéissant à la parole de Dieu. Quand tu as cette parole de rejet qui vient, tu dis, non, je te loue au Dieu de ce que je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Donc là, et maintenant, tu as beau me dire ce que tu veux, je résiste et cette parole, elle est pour moi. Je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Ne répétez pas ça comme des religieux à longueur de journée, mais prenez cette parole comme une réalité dans votre vie. Vous le prenez, et j'ai vécu moi des guérisons intenses avec le Seigneur en prenant la parole et en priant la parole. Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse à tes yeux. En rejetant toute forme d'individualisme dans notre fonctionnement. N'oubliez pas que David est allé voir Samuel et que Samuel était avec un groupe de prophètes. Là où il se trouvait, là où il y avait la présence de Dieu, c'est là où il y avait les prophètes rassemblés ensemble. Et ils avaient créé un environnement tel que ceux qui arrivaient pour taquiner les croyants était confondu, il devenait comme eux. Mais vous imaginez un peu, ça veut dire que même, entendez bien ceci, c'est important, même quelqu'un de démoniaque qui rentrerait ici serait mis à nu et il se soumettrait à l'environnement dans lequel on est. Qu'est-ce qui s'est passé à plusieurs reprises ici? On a eu des personnes qui sont venues avec des... et qui ont mis la pagaille dans l'église. Eh oui. parce qu'on n'a pas bâti un environnement solide. Et j'en suis le premier responsable. Voilà. Attendez, je reviens vers vous pour voir si j'ai rien oublié. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre en place maintenant ? Pas tout de que je vous donne ça ce matin. Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma propre vie ? Comment je vais bâtir ma vie perso ? Comment je vais bâtir l'Église ? Quel temps je vais prendre dans la prière ? Quel temps je vais prendre de passer du temps dans la prière avec d'autres ? Je ne dis pas qu'il faut être 100 ici le jeudi soir, parce que à la limite, c'est à la maison les réunions de prière pour éviter la fraîcheur de la pièce. Mais est-ce que les couples vont se mettre à prier ensemble ? Est-ce que dans les groupes de maison, on va se mettre à prier ensemble ? Je sais que ça se fait, mais est-ce qu'on va se mettre à prier ensemble, prendre le temps de prier ensemble ? Est-ce que quand je sais qu'une personne est seule et ou qu'elle est dans la souffrance, est-ce que je vais aller la voir et je vais prier avec elle ? Pas simplement l'écouter. Pas simplement, oui, c'est vrai, je vois la flèche dans ton cœur. Pas simplement l'accompagner dans sa souffrance, et il le faut, mais lui dire maintenant, je m'aperçois qu'il y a une possibilité pour toi, enfin pour l'ennemi, d'entrer dans ta vie. Ce que je voudrais maintenant, c'est t'aider à refermer ce. On va arrêter peut-être de se passer de la pommade, et puis on va dire, bah maintenant, c'est toujours la même situation, essaye de découvrir ce qui ne va pas. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là ? Parce que c'est ça qui va changer la vie des gens. Et lorsque la personne, vous allez aller avec elle, vous allez dire, voilà ce que Dieu dit dans sa parole concernant ses enfants. Et vous allez à côté d'elle et vous vous mettez à dire, non seulement vous priez, mais vous lui apportez une parole de vie. Et puis le dimanche suivant, vous la voyez, elle dit, est-ce que tu as mis en pratique ce verset ? Est-ce que tu l'as proclamé tous les jours dans ta vie de prière ? Est-ce que ce verset fait partie intégrante de ta vie maintenant ? Et si la personne, elle dit, oui, et ça va mieux, eh bien vous persévérez, vous continuez, et vous l'embêtez jusqu'à ce qu'elle ait totalement changé. C'est le rôle de chaque croyant, c'est pas le rôle d'un pasteur, c'est pas le rôle des anciens, c'est le rôle de chaque croyant de nous édifier les uns les autres. C'est ce que faisaient ces prophètes. Ils s'édifiaient les uns les autres. Certes, ils avaient un Samuel à leur tête, un grand leader. J'aurais aimé lui ressembler. C'était un homme de Dieu, mais il avait formé derrière lui des prophètes capables de s'occuper des prophètes. Et lorsque les gens venaient dans cet environnement-là, ils se mettaient à prophétiser parce que la présence de Dieu était telle que ça ne pouvait pas être autrement. Et il est temps pour Bethsaël de construire cet environnement-là. Il est temps pour nous de bâtir ça, parce que je ne veux pas bâtir, remplir. Vous savez qu'on a adapté nos cultes pour les inconvertis. On veut vraiment que les gens soient touchés. On veut que les âmes soient touchées. Mais si c'est pour les faire venir ici et puis que Satan a la possibilité d'entrer et de les voler, je ne veux pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est en train d'adapter. Maintenant, il faut qu'on construise le système pour protéger l'Église. Protégeons l'Église. Protégeons nos enfants. Protégeons nos familles. Protégeons ce que nous faisons à travers la vie de prière. À travers la proclamation de la parole de Dieu. C'est ça que nous devons faire. Voilà, c'est fini.